Les Déambulations de Blandine, un podcast pour déambuler librement entre art et création. Une réalisation de monstudio.tv.
Maintenant qu'on a posé les premières pierres du musée des Beaux-Arts, certes pas encore visibles puisque, comme je le disais, toutes les œuvres sont exposées dans les bureaux de la municipalité, il faut qu'on parle d'un monsieur absolument extraordinaire, un Nantais d'origine, qui s'appelle François Cacot. Alors, le musée de Nantes n'existe pas sans François Cacot. François Cacot était le fils d'un maître faïencier, ingénieur de Nantes. Il a été formé d'ailleurs à l'école militaire à Paris, et puis il commence à être inspecteur. Et ce monsieur, ça arrivait souvent à cette époque-là, est obligé de s'expatrier parce qu'il avait participé à un duel. C'était totalement interdit, donc plutôt que d'aller en prison, il fait une chose que beaucoup de jeunes gens un petit peu fortuné, curieux, faisait, c'est ce qu'on appelle le grand tour. Donc on allait faire, on se baladait dans toute l'Europe et on visitait ce qui vous intéressait, les gens qui vous intéressaient. Et c'est ainsi qu'il va devenir secrétaire d'un maréchal, le maréchal d'Opter, qui est gouverneur en Bretagne. Alors pour lui, c'est une chose qui est assez importante parce que ça veut dire qu'il va débuter, en fait, à la fin, au milieu des années 1775, il va débuter une carrière de diplomate. Alors, être diplomate, ça veut dire qu'on rencontre beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, qu'on est un peu partout, qu'on se promène. Et donc, il faut être curieux, ce qui était vraiment une des caractéristiques de François Cacot. Et très vite, en fait, il devient secrétaire d'un autre personnage très, très important que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Monsieur Talleyrand. Et il va être secrétaire de Talleyrand à Naples. Et ça, pendant une longue période. Une assez longue période, puisque ça va durer près d'une dizaine d'années. Et à Naples, il a le temps de visiter les églises, de visiter les palais et de se faire un œil. Non seulement de se faire un œil, mais aussi peut-être d'acheter. Alors, on parlera peut-être une autre fois plus longuement de ce qu'il peut acheter à Naples, parce que c'est là qu'il commence vraiment sa collection. Et à Naples, bien, un des grands, grands artistes formidables qui s'appelle Caravage, qui meurt au tout début du XVIIe siècle, et vient découvrir cette peinture caravagesque dans les églises. Cette période est une période importante, et puis il est remarqué par Bonaparte, ce qui, là aussi, est une chose importante. Alors il va séjourner dans toute une série de villes italiennes, et revient toujours quand même à Nantes et dans la région. Il reste attaché à cette région, mais il est ambassadeur un peu partout. Après Naples, ça va être Florence, où il va rester 3 ans, puis ce sera Gênes, de façon assez courte, et puis Rome. Et alors, c'est à Rome que les choses vont vraiment se concrétiser pour Cacot. C'est Bonaparte qui souhaite qu'il soit à Rome parce qu'il avait déjà participé à la négociation du traité de Trentino. Et Bonaparte lui avait déjà demandé de recueillir un certain nombre d'œuvres pour lui et de les faire transporter en France. Il avait fait ça formidablement. Mais là, il va avoir une chose beaucoup plus importante encore, qui est la négociation du concordat. Bonaparte est un peu en froid avec le pape Pie VII parce que la France était la première fille de l'Église. C'était le roi qui décidait de beaucoup de choses. Et puis la Révolution met fin à tout ça. On brûle, décapite un certain nombre de religieux. On ferme des couvents, on ferme des églises. Nous l'avons vu la dernière fois, on prend les objets qui sont dans les églises, peintures, etc. Et un certain nombre de prêtres vont s'exiler, mais d'autres vont accepter de prêter serment à la Constitution. C'est ce qu'on appelle les prêtres concordats. Tout ça n'est pas très simple, le pape n'est pas très content et il faut négocier un concordat. En plus, Bonaparte a des vues quand même sur les terres du Vatican. Bref, il faut négocier tout ça et il va y avoir la signature de ce concordat préparé par François Cacot qui est signé en juillet 1801. Les choses rentrent à peu près dans l'ordre. Le concordat reconnaît le catholicisme et les prêtres qui sont sous le régime du concordat sont nommés, les évêques vont être nommés sur proposition du ministre chargé du culte, mais avec validation bien sûr du nonce apostolique. Puis ce concordat va donner aux autres religions, aussi bien protestants, juifs, la reconnaissance de ces religions minoritaires. Voilà, donc son concordat est géré et il a fallu quand même un certain nombre d'années à Cacot pour rentrer et mieux connaître tous les arcanes du Vatican, mais aussi ça lui a permis, puisqu'il avait un poste assez important, ça lui a permis de rencontrer beaucoup d'artistes. Il avait son frère Pierre, dont on va parler plus longuement tout à l'heure, mais son frère Pierre a joué un rôle important. Il arrive lui aussi à Rome et il est peintre. Et dans les nombreuses charges que François Cacault assume, entre autres, il dirige la Villa Médicis. Enfin, il a en charge la Villa Médicis. C'est pas lui qui la dirige, parce que c'est un peintre qui s'appelle Vien, qui est un peintre d'histoire, qui va d'ailleurs former aussi Pierre Cacault. Et Rome, enfin l'Italie, est un pays qui est un peu en souffrance. En effet, les nombreux duchés n'ont plus de moyens, les aristocrates vont être obligés de vendre leurs collections, et Rome est un immense marché d'art. Mais vraiment, la place Navone est pleine d'œuvres, pas toujours de bonne qualité, souvent malgré tout intéressantes, alors qui vend les aristocrates, oui, mais aussi les couvents, les églises, quand ils ont besoin d'argent. Puis le goût change, on aime beaucoup moins le 17e, on aime alors plus du tout ce que nous appelons les primitifs. Et donc, il y a des ventes, mais c'est par centaines, et ça n'est pas forcément très cher. Donc Cacault, qui est très curieux, va aller tous les jours place Navone et va acheter. Alors il achète aussi bien chez les antiquaires, parce qu'il y a des antiquaires, il y a des brocanteurs, mais les artistes eux-mêmes vont l'aider à réunir ses œuvres. Et c'est comme ça que, aidé par son frère, aidé par des marchands, aidé par des peintres comme Vicard, qui est un de ses peintres préférés, petit à petit, il réunit une collection très importante. Alors si on continue sur la carrière de politique de François Cacault, pour revenir ensuite à son projet de musée, bien, une fois qu'il a réglé le concordat, il reste encore quelques années sur Rome, mais au bout de deux ans, il va rentrer à Clisson, et on va parler très vite de Clisson, et il meurt très vite, malheureusement, il ne profitera pas de chance. En octobre 1805, il meurt. Alors, pourquoi a-t-il réuni cette énorme collection? Bien sûr, par passion, ça, il n'y a pas de problème, mais aussi parce qu'il a un projet. Il a un projet extrêmement important, un projet qu'il écrit d'ailleurs, alors qu'il est encore à Rome. Il écrit une lettre à Talleyrand et il lui explique que pour lui, il faudrait un musée dans chaque département. On a cette lettre, elle est conservée. Il faudrait un musée dans chaque département et ces musées permettraient en fait de développer un projet qu'il appelle projet citoyen, pour éduquer non seulement les artistes, ça fait longtemps que les artistes doivent apprendre auprès d'œuvres plus anciennes, mais aussi pour éduquer tout le public. Et son projet est un projet qui correspond complètement en fait au projet de Bonaparte, mais qui sera mis en œuvre par Chaptal et Vivant Denon. Vivant Denon d'ailleurs, grand collectionneur, et Vivant Denon qui avait dirigé le Muséum Central et donc avec qui il était aussi en liaison. Et donc le grand projet dont on a parlé, les créations des musées en France en 1801. Alors, toutes ces œuvres ont été envoyés au fur et à mesure, en fait, à Clisson. Alors, toutes, pas tout à fait, parce que, par exemple, et ça va me permettre de vous parler de quelque chose d'assez amusant, pas tout à fait, parce que parfois, ils mettaient ça dans des bateaux, mais ça n'arrivait pas toujours jusqu'à Clisson. Et une fois, par exemple, il met, nous dit-on, 140 tableaux qu'il avait choisis. Quand on dit 140, il a pu en acheter 100 d'un coup, hein, à peu près. Enfin, c'était vraiment des grosses quantités. Dans un bateau danois, ce bateau est arraisonné par les Anglais. Bonjour, la perfide Albion. Les Anglais emportent cette cargaison à Londres et un bruit court que cette cargaison, en fait c'était le pape, c'était les collections du pape, et du coup sur le marché anglais ça fait des prix absolument incroyables. Donc voilà, la cargaison n'arrive pas complètement, mais ça vous explique aussi à quel point tout le monde venait se servir. C'était vraiment une chose qui était très commune, quand on avait de l'argent, on voulait des tableaux, on venait se servir en Italie. Alors, l'affaire du musée est une affaire importante, puisque donc toutes ces toiles arrivent, et Cacault était député de la Loire dite inférieure à l'époque, puis sénateur, et à Clisson, il va carrément construire en fait un bâtiment qui est un bâtiment pour accueillir ses collections, donc un musée. C'était à côté de... Quand on connaît Clisson, c'est sur les hauteurs de Clisson, et il y fait ce musée-école qui ressemble incroyablement en fait à des bâtiments italiens. Si vous y allez, il y a énormément de briques, les tuiles sont des tuiles rondes, etc. Le jardin est d'ailleurs aménagé presque comme un jardin italien, et il va y installer toute sa collection. Alors, Nous allons arriver maintenant assez rapidement à la fin de ce petit chapitre. Donc sa collection elle est énorme. Il la présente, alors il a un goût qui est assez complet, parce que là, il a non seulement des peintures italiennes, mais il a des peintures nordiques qui se retrouvaient à Rome, d'ailleurs dans les collections, et des peintures françaises. Il va installer plutôt par thématique, peinture religieuse, les paysages, les natures mortes. C'est plutôt comme ça qu'il va présenter son musée-école. Et à sa mort, son frère Pierre, qui était peintre lui-même, n'avait pas beaucoup de moyens, il n'a plus les moyens d'entretenir ce musée-école. Donc il va aller voir le préfet de l'époque et il propose que ça soit un don, en fait, entre guillemets, à l'État, et qu'un artiste sculpteur, laboureur, parce qu'il avait aussi quelques sculptures hein, dans la collection de Gacco, qu'un laboureur prenne en charge ce musée. Le préfet refuse, Pierre est absolument acculé, il ne sait plus quoi faire, et bah, il va essayer de vendre la collection. Alors, sur le marché privé, il essaye de négocier. Comme il avait beaucoup négocié à Rome pour son frère pour acheter les collections, il sait ce que c'est que négocier, il connaît la qualité des collections. Donc il va essayer de contacter des antiquaires à Paris, le général Murat. Et puis il va aller plus loin, parce que ça, rien n'arrive, il va proposer cette collection au roi de Hollande. Et alors, pour la plus grande chance de Nantes, le maire de Nantes de l'époque était un voisin de Clisson, il s'appelait Jean-Baptiste Bertrand Gélin, et il a l'idée formidable, finalement, de négocier cette collection. Comme cette collection, Pierre n'arrivait pas à la vendre, bon, il l'achète, mais elle n'est pas si chère que ça, 30 000 francs or, et puis 5 000 francs de rente viagère. Alors, c'est quand même 1155 peintures, 64 sculptures, 10 000 gravures, donc c'est vraiment un musée complet, entier. Et le 27 janvier 1910, la vente est signée. Malheureusement, Pierre meurt 2 jours après. Donc en plus, la ville va faire quelques économies, puisque la rente viagère, certes, une partie va aller à la femme de Pierre, mais enfin bon, c'était une affaire. Et donc, voilà l'histoire, comment ces peintures c'est tout à fait formidable, cette collection tout à fait formidable est rentrée. Alors elle n'est pas complète, puisque je vous disais que dans les envois, il y en a qui se sont perdus jusqu'en Angleterre. Et puis la ville d'ailleurs ne créera pas tout de suite le bâtiment, je vous l'avais dit, c'est dans les années 30 seulement, 1830. Comme il y avait des lots énormes, il y a environ 400 tableaux qui sont vendus par la ville elle-même. Alors voilà pour la première partie aujourd'hui, parce que maintenant nous allons regarder quelques tableaux quand même, parmi ces quelques 1000 tableaux.